Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, la team podcast, ici Pauline Agneau et je suis aujourd'hui avec vous pour une leçon. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un petit peu différent pour cette leçon puisque on parle investissement avec Agathe qui est la fondatrice d'une jolie boîte de prêt-à-porter pour enfants de seconde main que je vous invite d'ailleurs à aller consulter qui s'appelle Family Affaires qui se développe plutôt de manière très sympathique. Et Agathe me pose la question suivante, elle me dit comment intéresser les investisseurs dans mon cas de figure, à savoir le fait que je ne suis pas une entreprise de la tech. Parce que comme vous le savez sans doute, c'est vrai que les entreprises de la tech trustent, si je puis dire, les investissements notamment de fonds. Et Agathe se pose donc légitimement la question de comment réussir à vraiment intéresser ces gens ou les trouver. Quelles sont selon moi les étapes à suivre, quelles sont les best practices. Donc un épisode un petit peu différent qui je l'espère sera utile à un certain nombre d'entre vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me tenir informé si c'est le cas sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse toujours de savoir si les épisodes vous ont plu. Donc ça se passe sur Instagram et sur LinkedIn. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Agathe.
Bonjour Pauline.
Ravie de t'accueillir avec moi sur cette leçon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Agathe, comme le veut maintenant la coutume, commencer par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène ici?
D'accord. Donc moi je m'appelle Agathe Fontaine, j'ai 41 ans, deux enfants. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à Londres et je suis de retour à Paris depuis un an. J'ai monté un e-shop de vêtements de seconde main qui s'appelle Family Affaires et aussi de déstockage de marques il y a à peu près 3 ans à Londres, qui a commencé par des pop-up, qui est devenu un site internet il y a 2 ans et maintenant on combine les deux, et e-shop et pop-up. Okay. Voilà, donc c'est de la seconde main pour enfants.
Trop sympa. Ben écoute, Family Affaires, avis aux amateurs et puis surtout aux mamans et aux papas qui ont besoin de bien habiller leurs enfants dans le respect en plus de l'upselling. Alors dis-moi, upcycling pardon. Alors dis-moi Agathe, qu'est-ce qui t'amène ici avec moi aujourd'hui?
Alors moi je suis arrivée à un niveau de ma société, c'est-à-dire qu'elle fonctionne bien, on est rentable, etc. Mais je me pose la question de lever des fonds pour justement pouvoir scaler, embaucher. Voilà, j'ai besoin d'investir maintenant pour pouvoir grossir. Et je me posais la question de savoir comment procéder quand on n'est pas dans la tech, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites autour des startups dans la tech. Mais quand on n'en fait pas partie, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je voulais savoir si tu avais des conseils là-dessus.
Carrément. Écoute, c'est une bonne question parce que je suis passée par là aussi. Moi aussi, étant... à la tête d'une entreprise avec mon mari qui n'était pas dans la tech. En fait, c'est vrai, et ça je le dis à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est à la fois super parce que du coup, on fait ce qu'on aime et puis il y a plein de très très belles opportunités. Mais en même temps, clairement, le monde des levées de fonds est quand même beaucoup centré autour de la tech et en particulier de ce qu'on appelle les sujets de B2B SaaS, c'est-à-dire en fait créer des logiciels, on va dire, online pour aider des entreprises. Et du coup, dès que tu sors un peu de cette verticale, c'est vrai que la levée de fonds est un petit peu moins aisée, tout simplement parce qu'en fait, les investisseurs sont moins habitués à investir dans des boîtes qui ne sont pas des boîtes tech. Pour autant, c'est tout à fait possible et j'en suis la preuve vivante. Et au-delà de moi, il y a plein de personnes qui l'ont très bien fait par le passé. Donc moi, ce que je te dirais, c'est déjà évidemment déterminer, alors je sais pas si tu as déjà des business plans, des choses comme ça, mais déterminer en gros quels sont les montants qui sont en jeu. En fonction de ça, ça va te permettre en fait tout simplement d'aller voir le type d'investisseur que tu allais chercher. Parce que c'est évidemment pas du tout la même chose d'aller chercher quelques centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros. Donc j'ai envie de dire, si c'est la première fois, j'imagine que tu es plutôt dans le scope d'aller faire une levée avec quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est déjà très bien. Dans ce cas-là, en fait, il faut, première étape, je pense que tu fasses un deck Donc, tout simplement, une présentation, si elle est faite, tant mieux, voilà, où t'expliques ta proposition de valeur, t'expliques pourquoi tu cherches à lever de l'argent, comment tu utilises l'argent, quelle est l'équipe, etc. Donc ça, je te refais pas un petit cours là-dessus, mais je pense que tu sais le faire. Mais en gros, il faut tout simplement donner envie et expliquer pourquoi mettre de l'argent dans ton entreprise peut être un investissement intéressant. Étant entendu que malgré tout, ça reste une entreprise risquée puisque bah voilà, vous êtes encore une jeune boîte, même si, comme tu m'as dit, t'es rentable, donc c'est déjà un très très bon avantage pour vous par rapport à beaucoup d'autres gens qui lèvent des fonds qui sont en général pas rentables. Et puis la deuxième étape ensuite, c'est de se dire ok, mais alors du coup, qui sont les personnes à qui je vais présenter ce deck? Parce que c'est bien sympa d'avoir un deck, mais il faut aussi pouvoir trouver les bonnes personnes quoi pour investir. Et donc, en fait, je dirais, mon conseil principal là-dessus, c'est de commencer déjà par ton réseau. Parce que la réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes dans ton entourage, je suis sûre, qui seraient potentiellement susceptibles d'être intéressées, qui sont pas forcément des investisseurs professionnels, mais qui ont envie, tu vois, de te faire confiance, qui ont envie de croire à ton projet, qui ont envie de te soutenir. Et mine de rien, tu vois, si t'arrives à avoir quelques personnes qui mettent 20 000, 30 000 euros, c'est des grosses sommes déjà pour un individu, hein, c'est sûr. Mais tu vois, si t'en as 10 comme ça, ben, t'arrives assez rapidement à 200 000, 300 000 euros. Donc ça, c'est une première chose que je te conseille de faire. Et au-delà de ça, au-delà d'aller chercher dans ton entourage et donc d'être assez ouverte, tu vois, sur le fait qu'en gros, tu sois intéressée à l'idée de lever de l'argent, donc dans ton entourage, évidemment, demande aussi dans ton entourage s'il y a des personnes qui connaissent des investisseurs professionnels. Parce que toi, tu les connais peut-être pas directement, mais par contre, ta belle-mère, ton petit cousin que tu ne vois pas très souvent, peut-être qu'en fait, pour une raison, tu ne sais pas, mais l'un de ses meilleurs potes, en fait, travaille dans un fonds de seed et du coup, pourrait tout à fait être intéressé. Donc ça, c'est déjà les premières étapes. Et en fait, je les souligne, ça peut paraître évident. Je sais que ça l'est, mais c'est parce qu'en fait, je constate autour de moi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont tellement terrorisées à l'idée de lever des fonds, qui font leur deck et ils vont même pas faire la première étape de base, si tu veux, qui est déjà d'en parler autour d'eux, à leur entourage et à toutes les personnes potentiellement en niveau 2, si tu veux, de leur entourage, quoi. Un peu la cousine germaine, si tu veux, versus la cousine. Il y a déjà, en fait, un premier travail, si tu veux, qui est d'aller chercher des personnes dans ton entourage. On pourra parler, si tu veux, après de si tu dois les sélectionner, comment les sélectionner. Mais déjà, il y a cette première étape. Et puis, l'étape d'après, c'est d'aller chercher des investisseurs plus professionnels. Et pour ça, en fait, c'est pour ça que je te posais la question de combien, en fait, tu cherches à lever. Parce qu'en fait, en fonction de la somme que tu recherches, eh bien, tu ne vas pas aller chercher les mêmes personnes. Dans le jargon, si jamais c'est ta première levée de fonds et que tu souhaites avoir quelques centaines de milliers d'euros, c'est ce qu'on appelle du seed, c'est-à-dire un investissement, on va dire. En général, le seed, d'ailleurs, a plutôt lieu avant que l'entreprise ait été créée. Donc, dans ton cas, c'est un peu différent. Mais par contre, en termes de montant, c'est, on va dire, une première, c'est pour ça que ça s'appelle seed, c'est un premier investissement, peut-être un premier pied dans la porte, si tu veux, des investisseurs qui, en général, après ça, voudront remettre de l'argent avec peut-être d'autres investisseurs ultérieurement. Et donc, ça, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'aller chercher sur Internet quels sont les fonds seed en France. Je peux t'en citer quelques-uns. Par exemple, Kima. J'ai déjà eu la chance d'avoir Jean Laroche Brochard sur le podcast, je crois, deux fois, et donc qui est en charge en fait du fonds Kima, qui est le fonds de Xavier Niel. Kima, typiquement, est un fonds spécialiste du seed, donc exactement dans ton cœur de cible. Et Kima, oui, Kima, par exemple, je sais pas si tu le sais, n'hésite pas à aller sur leur site, mais tu verras qu'ils ont donc déjà beaucoup d'investissements parce qu'ils font beaucoup de volume d'investissement, mais en plus au-delà de ça, des boîtes très variées et donc qui sortent justement du tech qu'on a l'habitude de voir partout. Ils ont pu investir dans des boîtes, tu vois, de culottes menstruelles, enfin plus dans des marques, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant pour toi parce que je pense que du coup ça sera assez en rapport avec ton propre business. Et donc c'est vrai que si c'est des investisseurs qui sont plus habitués à traiter ce type de business, ils vont être plus ouverts. C'est sûr que si tu vas avoir des investisseurs qui sont uniquement habitués à aller investir dans de la tech, là forcément ils vont être un petit peu plus fermés, si tu veux, à l'idée d'investir chez toi.
C'est sûr.
Donc, je sais pas si tu avais déjà fait.
J'avais écouté justement l'interview
avec Jean.
Ouais, qui était très intéressante, où il disait qu'il faisait que du one shot de 150 000 et voilà. Mais c'était assez intéressant. Ouais.
Donc moi, ce que je te conseille de faire, je sais pas si tu avais déjà, au-delà du deck, commencé à travailler donc à la fois ton réseau et ensuite, au-delà de ça, commencer à regarder justement au niveau français, hein, parce que dans un premier temps, je pense que c'est déjà très bien. Quelles sont des boîtes des boîtes de VC, enfin des boîtes de funding qui pourraient être spécialistes du seed, mais ça, une petite recherche sur internet te permettra d'en trouver pas mal. Il y en a un certain nombre, et ensuite après tout simplement de les contacter, et tu vas te rendre compte que t'as un avantage compétitif assez important par rapport à la moyenne, c'est que toi tu cherches à lever des fonds, mais t'es déjà une boîte rentable, donc par rapport à beaucoup de gens, c'est assez énorme, franchement.
Oui, et puis je connais déjà le marché, en fait je le maîtrise assez bien déjà.
Ça fait combien de temps que la boîte existe ?
En France, ça fait 1 an et à Londres, ça fait 2 ans et demi. En fait.
D'accord. Donc, en plus, avec une dimension internationale, ça aussi, c'est intéressant.
Oui, je suis déjà développée à l'international. Donc, je fais un peu l'inverse des structures. C'est que je développe le national après l'international. Mais...
Ouais. Après, comme le disait Jean d'ailleurs dans l'un des deux épisodes que j'ai fait avec lui, et d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui cherchent à lever des fonds, je pense que ce sont deux très bons épisodes pour justement aider. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour aider justement à donner quelques premières clés. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il disait, c'est que et en ça, c'est assez différent de quand tu cherches à chercher de la dette, donc auprès de banques. Donc de la dette, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on te prête que tu dois repayer, qui a un intérêt, c'est un emprunt. L'investissement, c'est autre chose. Ça veut dire que tu vas donner des parts contre de l'argent, concrètement, pour être assez simple, et je le schématise, mais c'est ça. Du coup, ça veut dire que tu vas t'associer avec ces personnes-là. Donc, les personnes qui sont dans une perspective de levée de fonds, en fait, vont accepter de donner une part de leur capital aux investisseurs, mais c'est aussi parce qu'ils pensent que les investisseurs vont pouvoir les suivre dans le temps. Et donc, et c'est pour ça que je voulais t'en parler, et donc les investisseurs cherchent en général des entreprises avec une vraie vision, une vraie ambition, un fort potentiel. C'est vrai qu'en général, la levée de fonds est quand même assez synonyme, si tu veux, d'entreprises qui vont vouloir se développer. Donc, tu utilisais le mot de scaler, c'est-à-dire se développer concrètement. Et y a pas vraiment de mot en français, malheureusement, mais avoir des effets d'échelle, on va dire. Si tu es dans cette perspective, la levée de fonds peut être très intéressante pour toi. Il faut que tu acceptes malgré tout que tu vas perdre une partie de ton capital, qu'à terme, probablement, tu n'auras plus la majorité du capital. Ça veut dire que tu ne seras plus actionnaire majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est quand on lève des fonds, on lève une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. Et ce n'est pas un mal du tout, mais c'est comme ça que ça se fait. Et donc, les investisseurs divers et variés vont prendre une part de plus en plus importante du capital. Ce qui signifie qu'ils vont avoir quand même un pouvoir de décision de plus en plus important sur ton entreprise. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et c'est l'une des différences avec l'emprunt bancaire. Néanmoins, l'avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite parce que tu peux avoir des sommes en général plus importantes que ce que tu pourrais avoir pour un prêt bancaire, vu le chiffre d'affaires aujourd'hui et la rentabilité de ton entreprise. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais quand tu vas faire ton deck et quand tu vas aller pitcher à ces investisseurs qui veulent investir donc sur une entreprise comme la tienne, dis-toi que eux, ils mettent un premier pied dans la porte, mais qu'en réalité, là, c'est le premier pied. Eux, probablement, en fait, ils veulent se dire cette boîte-là, elle a de l'ambition, elle veut devenir au moins internationale, au moins européenne, peut-être même mondiale un jour. Et donc, si tu veux, il faut que tout ça soit reflété dans ton deck. Il faut aussi que ça soit reflété dans ce que tu penses, tu vois, parce que bien sûr, il ne faut pas que tu fasses quelque chose juste pour plaire aux investisseurs, il faut que ça soit sincère. Mais si c'est le cas, c'est encore mieux parce que du coup, ces investisseurs, et notamment, je pense à Jean Laroche-Brochard, ont plus envie d'investir dans des boîtes où ils se disent il y a un très fort potentiel. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les entreprises de VC, donc de venture capital, c'est-à-dire ces entreprises qui investissent dans des entreprises, dans des startups, le font en sachant pertinemment qu'il y en a 8 sur 10 ou 9 sur 10 qui vont se planter, sur lesquels ils vont perdre leur mise. C'est un peu comme un pari, si tu veux, c'est comme du poker, quoi, d'une certaine manière. Mais quand ils gagnent la mise, ils ont envie de rafler le jackpot, tu vois. Et donc, ils ont besoin de savoir que les entreprises sur lesquelles ils misent ont envie d'aller chercher le jackpot. Parce que sinon, ils se disent, c'est pas forcément rentable d'investir dessus. Donc, du coup, tout ça pour dire que dans ton deck, il faut quand même qu'il y ait une forme d'ambition qui soit vraiment palpable pour qu'on ait aussi envie en tant qu'investisseur de mettre de l'argent chez toi, quoi.
Tout à fait. Nous, des marges de progression, d'évolution, de développement, il y en a énormément. On a beaucoup d'idées et je pense qu'il y a réellement un potentiel et je pense que franchement pour un investisseur ça peut être intéressant. Après, nous, on est arrivé à un stade où il faut qu'on puisse mettre de l'argent pour pouvoir grossir. Et c'est vrai que on a quelques concurrents qui ont levé. Donc, forcément, leur croissance est
accélérée. Bien sûr.
Accélérée. Donc, nous, on voudrait pas non plus rater la marche, quoi.
Rater le coche. Ouais, ça, c'est intéressant, tu vois. Et expliquer dans ton tech pourquoi vous êtes l'entreprise au sein de toute cette concurrence qui va réussir à saisir le marché de la meilleure manière possible. Ça, c'est intéressant parce que du coup, eux, évidemment, ils vont faire leur homework, tu vois. Ils vont aller regarder ce qui se passe à côté. Et ils vont se dire, est-ce que c'est les stars ou pas de ce marché? Et si c'est le cas, ils auront envie d'investir encore plus. Donc, à toi, tu vois, aussi peut-être de l'expliquer dès le début. Typiquement, un conseil que je donne souvent des gens qui me posent la question, c'est est-ce qu'il faut cacher la concurrence ou pas? Non, au contraire, il faut la montrer et il faut être objectif sur pourquoi est-ce qu'on veut être meilleur qu'elle et comment est-ce qu'on veut être meilleur qu'elle, tu vois. Donc l'idée, c'est évidemment pas de mentir ou de cacher quoi que ce soit, mais c'est plutôt d'être transparent et puis surtout de soi-même faire un travail sur soi, de se dire ok, comment est-ce que physiquement est-ce qu'on va être capable, tu vois, d'être meilleur que les autres. Et peut-être qu'il y a déjà plein d'éléments de réponse dans tout ce que vous avez fait, c'est tout à fait possible, et auquel cas top, parce que je pense que ça sera que des arguments hyper positifs, tu vois, pour cette levée de fonds. Voilà, le dernier peut-être petit conseil que je peux te donner pour l'avoir vécu, pour avoir fait cette erreur, c'est essaye d'éviter d'avoir trop d'actionnaires. Parce que notamment, si tu suis mon premier conseil qui est d'en parler autour de toi, dans ta famille, tes amis, ton réseau, tu te rendras peut-être compte qu'en fait, il y a plus de personnes que tu ne crois qui sont intéressées. Et tant mieux, c'est chouette, parce que ça veut dire que tu communiques bien sur ton projet et ça veut dire qu'ils donnent envie, tu vois. À l'inverse, même si c'est très chouette, il faut aussi que toi, tu sois un petit peu... garante, si tu veux, du temps en fait que tu vas consacrer à tes actionnaires. Et c'est vrai que d'avoir, je te dis n'importe quoi, 30 ou 40 actionnaires, ça n'est pas du tout la même chose qu'en avoir 10, forcément, parce que même s'ils ne te demandent pas tout le temps des comptes, etc., naturellement, tu vas devoir quand même un peu communiquer avec eux. C'est quand même un travail, si tu veux, la relation investisseur qui est réelle, qui est que tu dois les informer, parfois ils ont des questions, parfois ils ne sont pas contents, enfin, c'est un peu comme une relation avec un employé, quoi. Tu ne peux pas juste le laisser comme ça et qu'il vive sa vie tout seul. Non, à un moment donné, tu vois, il a mis de l'argent dans ta boîte, il faut s'en occuper un peu. Donc pour ça, il y a des processus à mettre en place, tu vois, de reporting régulier, etc. Mais quand même, je te le dis pour l'avoir vécu et pour l'avoir beaucoup vu autour de moi, j'ai notamment un copain qui a, je crois, 50 actionnaires différents parce qu'il n'a fait que du love money. Et en fait, bon, il en est ravi parce que c'est que des gens hyper motivés, hyper investis, enfin hyper heureux, tu vois, d'être actionnaire. Mais à l'inverse, c'est énormément de travail. Et du coup, je t'invite à essayer, si jamais tu passes par cette voie, la voie du love money, donc le fait d'aller chercher dans ton réseau et dans tes amis ou ta famille des actionnaires, de juste faire attention à ne pas en avoir un nombre trop important, d'autant plus que dis-toi que si tu fais ta première levée de fonds, tu risques d'en faire d'autres derrière, donc tu vas accumuler, si tu veux, ce stock d'actionnaires, qui fait que à terme, tu peux en avoir beaucoup, et c'est quand même une sacrée charge de travail. Donc j'aurais tendance, voilà, à te dire, essaye de le caper, peut-être 10-15, tu vois, c'est le max, surtout pour une première levée, parce qu'ensuite, après, ça va s'accumuler.
Oui, et puis ça évite aussi de diluer trop le capital dès la première levée, quoi.
Ouais, complètement, et... Enfin, ça dépend. En fait, une des manières, si tu veux, que tu peux éviter d'avoir trop de monde, c'est aussi en mettant un ticket d'entrée, c'est-à-dire la somme que les gens que tu acceptes minimale, tu vois, de ces investisseurs, relativement élevée. Tu vois, il y a certaines personnes qui mettent pas de ticket d'entrée, et donc tu peux avoir quelqu'un qui dit ah ben moi je vais mettre 5 000 euros. Ben non, peut-être profites-en pour mettre une somme un peu plus élevée, genre 15 000, 20 000 euros. Comme ça, tu t'assures, si tu veux, d'avoir des personnes qui sont réellement investies, premièrement. Et du coup, forcément, de filtrer un petit peu. Après, à toi de voir en fonction de la somme totale, tu vois, que tu veux lever. Mais mettons que c'est 200 000 euros. Si tu mets 20 000 euros de ticket d'entrée, ça veut dire qu'avec 10 personnes, tu vois, tu pourrais boucler ton tour. Alors que si jamais tu mets pas de ticket d'entrée et que tu as des gens qui mettent 5 000, bah là, ça va être plus compliqué.
Tout à fait.
Donc, ça changera rien, tu vois, fondamentalement sur la valorisation de l'entreprise. Mais par contre, sur le nombre, ça peut avoir un impact.
Sur la gestion derrière, ouais.
Ouais, exactement. Exactement. Surtout, n'oublie jamais que quand tu rentres dans le monde de la levée de fonds, c'est pas 100% vrai ce que je dis, parce qu'il y a certaines personnes qui font qu'une levée de fonds et ensuite ils arrêtent. Mais en général, je te dis en général, ça n'est que la première levée de fonds d'une série. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit seed, ensuite série A, série B, série C. Donc, ça porte même des noms, si tu veux, dans le jargon, on va dire, des investisseurs. Parce que c'est quelque chose, en fait, de très fréquent. Comme tu vas pousser la croissance, tu vas largement investir, tu vas recruter des gens qui sont très câblés, ça va te coûter de l'argent, donc tu vas probablement perdre en rentabilité. Et donc, tu devras relever des fonds derrière. La croissance, à un moment donné, elle se fait aussi via de l'investissement. Et donc, parfois, au détriment de la rentabilité, ce qui est très, très difficile, c'est de réussir à garder la rentabilité et une très forte croissance, ce qui, en général, n'est pas le cas des entreprises qui lèvent des fonds. Ils ne sont pas rentables, pas du tout, au contraire. Mais ça permet d'avoir une très belle croissance. Et donc, tout ça pour te dire qu'il est fort probable que si jamais tu lèves une fois des fonds, tu releveras des fonds derrière. Et donc, je veux juste que tu l'aies en tête pour cette première levée de fonds, que tu saches qu'en gros, si c'est une boîte qui compte pour toi et sur laquelle tu veux investir du temps, tu vois, pendant quelques années, bah dis-toi que voilà, c'est une fois là, c'est le début, tu es en train d'apprendre et c'est top. Mais par contre, dis-toi qu'il y en aura d'autres derrière. Et donc, il faut que tu l'aies en permanence en tête pour à la fois pas trop lâcher de capital, ne pas avoir trop d'investisseurs, etc., etc. Il faut vraiment avoir une vision long terme.
Oui, tout à fait. C'est intéressant. Et vous avez levé combien de fois?
Nous, on a levé au total 4 fois. Quatre fois. Maintenant, on n'a plus levé. Maintenant, en fait, pour tout dire, on a levé 4 fois des fonds avec Gemio et on a racheté un certain nombre de nos actionnaires. Ce qui signifie qu'on est avec mon mari, on a la majorité du capital. Mais tu vois, on aurait pu entre guillemets tomber dans l'espèce de cycle de levée de fonds, perte de rentabilité, du coup relevée de fonds. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'on voulait faire, parce que nous, Gemio est une entreprise qu'on veut garder pendant des années, développer pendant des années. Et donc, on s'est dit qu'on préférait en avoir le contrôle pour le faire et donc être rentable aussi. On trouvait que c'était plus sain. Enfin, moi, c'est mon état d'esprit. Au bout d'un moment, je trouve ça tout à fait normal au début de pas être rentable, parce qu'on investit, on crée une marque, c'est tout à fait normal. Mais par contre, au bout d'un moment, on voulait être rentable. Et donc, depuis qu'on est rentable, on a plutôt eu tendance à racheter des fonds. À racheter des différents actionnaires. Donc, on a fait 4 levées de fonds, mais après, on a des prêts bancaires, etc. Donc voilà. Mais l'entreprise est autofinancée depuis 3-4 ans maintenant, même. Quelque chose comme ça.
D'accord.
Mais comme je te disais, c'est à la fois top et c'est aussi un challenge, parce que réussir à maintenir une croissance très élevée et donc être précautionneux, si tu veux, sur les dépenses tout en étant rentable, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire.
Non, c'est pas une mince affaire. Et puis, on est quand même dans un monde de grosses levées avec des hyper-croissances et sur pas mal de boîtes que j'observe autour de moi, parce que j'ai pas mal de copains dans des startups, etc. Et voilà, après, on se demande aussi quand est-ce que... en fait, si ça a vraiment un sens de lever autant pour avoir des boîtes qui vont finalement jamais être rentables. Donc, c'est un petit peu... c'est plus philosophique que entrepreneur pur, mais... Voilà, moi j'aimerais bien trouver un juste milieu entre cramer du cash et avoir une croissance qui suit, et puis avoir aussi une société qui soit rentable et qui voilà, donc c'est
écoute, ça c'est un débat philosophique que je serais ravie d'avoir avec toi. J'ai un avis assez fort sur le sujet, mais je crains que le temps ne nous permette pas de l'avoir. Mais effectivement, je pense que en fait, ce qui compte, si tu veux, mais j'ai senti que toi, tu t'y as mûrement réfléchi, c'est de savoir pourquoi on le fait, et typiquement de ne pas le faire pour les mauvaises raisons, cette levée de fonds, c'est-à-dire parce que tout le monde le fait autour de toi. Ça, c'est sûr que c'est pas la bonne raison, parce qu'en fait, c'est pas parce que t'as 3 boîtes autour de toi qui font des choses proches de toi qu'il faut le faire. Peut-être que ces boîtes-là le font parce qu'elles ont en fait pas réfléchi au sujet. C'est quand même à la fois un avantage d'avoir plus de cash, mais c'est aussi un inconvénient. Comme je te disais, ce sont des actionnaires, donc c'est un peu comme si tu te mariais avec eux, d'une certaine manière. Enfin, il va y avoir un pacte d'actionnaires, ils vont avoir des droits de regard sur un certain nombre de choses. Donc, tu n'es plus, si tu veux, seul à la maison, tu vois. C'était chez toi, pour l'instant, donc t'as plus de 51%, mais t'as un coloc, tu vois. Et un jour, si jamais tu lâches 51, en fait, t'es même plus vraiment chez toi, en fait, tu peux te faire expulser.
T'es chez lui, ouais.
T'es chez lui, tu vois. Et donc ça, il faut savoir si c'est ce que tu souhaites ou pas.
Ouais, mais c'est pour ça que voilà, c'était intéressant justement d'avoir cette discussion déjà pour la possibilité de le faire. Après, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi et que j'en parle et que je vois justement avec plusieurs créateurs de boîtes, etc., qui m'ont plutôt bien conseillé. Donc voilà, je pense qu'on va le faire, mais de façon assez modérée, et puis pour justement garder un peu la main sur la boîte, sachant que moi, ça fait quand même 3 ans que je bosse jour et nuit. Donc,
C'est sûr. Ça te permettra au début, ce qui est très important, c'est de réussir de pouvoir recruter des personnes suffisamment seniors, on va dire, ou câblées, pour que ça t'arrive vraiment à déléguer, si tu veux, certains sujets. Je pense par exemple au sujet admin, au sujet financier, enfin à tous les sujets, si tu veux, où peut-être toi, tu perds un peu de temps. Et donc, c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'argent au début, c'est plus difficile de déléguer, assez simplement, parce qu'en fait, des personnes... Il y a plein de gens très bien qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui peut-être acceptent des salaires un petit peu plus bas. Mais il y a quand même une réalité, c'est que si jamais tu veux vraiment pouvoir déléguer rapidement, à un moment donné, et c'est ce que font d'ailleurs toutes ces startups, c'est pour ça qu'elles lèvent autant de fonds.
Il faut
payer des gens assez cher pour que les compétences, si tu veux, viennent à toi. C'est-à-dire que tu achètes des compétences, c'est pas toi qui vas former la personne. Et donc ça, c'est juste de l'argent, si tu veux. Donc il y a un moment donné où il n'y a pas de secret. Si t'as pas cet argent, t'es obligé de le faire toi ou de former des gens. Mais c'est juste plus de temps.
Ouais. Donc oui, c'est effectivement c'est ce qu'il me faudrait aussi, c'est des gens compétents pour développer.
Et si t'as de l'argent, tu pourrais les trouver.
Voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi. Donc,
c'est
voilà.
Ça. Exactement. Bon, Agathe, écoute, merci en tout cas pour cette question. J'espère qu'elle t'a été utile, enfin que ma réponse ou en tout cas mes élucubrations ont été relativement utiles. Contacte Jean, absolument. Dis-lui que t'as écouté notre épisode ensemble et je pense que ça peut être vraiment une très très bonne piste pour ta boîte. Et puis au-delà de ça, fais un peu le petit travail que je te disais d'aller chercher à la fois dans ton entourage et puis je pense que tu as peut-être déjà fait, mais d'aller regarder quels sont des fonds spécialistes du CID en France et je pense que tu auras de jolies surprises à la clé.
Avec plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi Agathe, à bientôt. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis, pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis, pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.